RBA FM vous propose l'émission Mémoire et patrimoine présentée par Gérard Marty. Mémoire et patrimoine consacrée à Gilles Vidal, professeur d'histoire au lycée Marmontel de Mauriac, qui a mené un travail de recherche sur les soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Voici donc la première partie de cet entretien.
RBA FM Auvergne-Limousin.
Bonjour Gilles Vidal, bienvenue sur RBA Auvergne-Limousin. Vous êtes professeur d'histoire au lycée de Mauriac et depuis plusieurs années, vous menez un travail de recherche sur les soldats qui sont morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Ils sont très nombreux et il n'est pas une commune du Cantal qui n'ait vu un de ses enfants fauché à la fleur de l'âge au cours de ce conflit particulièrement meurtrier. Je donnerai trois chiffres. 8 millions de Français ont été mobilisés dans cette guerre. 1 500 000 y ont perdu la vie et, ne les oublions pas, 4 millions en revinrent gravement blessés. C'était il y a plus de 100 ans et ce fut l'une des plus grandes boucheries de l'histoire. Aujourd'hui, on peut voir les noms de ceux qui sont morts. Ils sont gravés dans la pierre des monuments aux morts de nos villages et de nos villes. Mais pour vous, Gilles Vidal, ce ne sont pas que des noms, car vous avez voulu tout d'abord les recenser et de ce travail, vous avez fait 3 ouvrages chronologiques. Plus récemment, vous venez de publier un 4e ouvrage intitulé « Destin de poilu » au pluriel. Il est différent des 3 précédents, car vous nous faites vivre les derniers jours de 10 soldats, pour la plupart originaires du Nord-Cantal. Vous avez retrouvé la trace de ces jeunes hommes qui ont vécu, qui ont combattu et qui ont donné leur vie pour leur pays. Pour la patrie, comme on disait volontiers à l'époque. Il y a quelques jours, j'ai assisté à la conférence que vous avez donnée à la médiathèque de Mauriac, où vous l'avez présentée. En vous écoutant, je me suis dit qu'il fallait que vous veniez en parler à notre antenne, dans le cadre de la nouvelle émission « Mémoire et patrimoine » que j'ai le plaisir de présenter. Alors bonjour Monsieur Vidal et merci beaucoup d'être venu à notre antenne pour nous parler de vos travaux qui, j'en suis sûr, intéresseront nombre de nos auditeurs dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme et en Corrèze.
Bonjour, merci à RBA pour son invitation. Et du coup, la première question que vous me posiez, à savoir comment m'est venue cette passion pour l'histoire, je peux d'ores et déjà y répondre si vous voulez.
Oui, bien sûr, j'aimerais que vous nous disiez ce qui vous a amené à vous intéresser à ces noms qui sont gravés dans la pierre de nos monuments aux morts et surtout comment vous en êtes venu à vous lancer dans un tel travail de mémoire.
Alors, c'est une question avec plusieurs réponses en fait. D'abord, tout ça, toute cette passion vient de l'enfance, je pense. J'ai été élevé dans un village qui s'appelle Saint-Martin-Valmeroux et j'habitais dans le bourg, donc. Tous les matins, quand je me rendais à l'école du village, qui se trouvait en bas du village, je passais par la place et fatalement, je me trouvais confronté au monument aux morts du village qui trônait en plein milieu de la place. Et du coup, régulièrement, je m'approchais de cette chose curieuse pour un enfant et que je ne comprenais pas. Du coup, je cherchais à m'en approprier, à la comprendre. Et régulièrement, donc, j'en faisais le tour, j'essayais de comprendre quels étaient les personnages qui figuraient dessus. J'étais assez sceptique parce que je voyais gravée dans le bronze une femme avec des ailes qui était au chevet d'un homme qui paraissait être un soldat, mais il était tout nu, il avait un casque. Donc en fait, j'étais assez sidéré par cette représentation.
C'était une allégorie un peu audacieuse.
Voilà, tout à fait, oui. J'ai mis beaucoup de temps à la comprendre. Et du coup, j'ai été assez jeune, intrigué par cet endroit. Et quand on fait le tour de ce monument, on se retrouve aussi confronté à une liste de noms qui sont gravés dans le bronze. Et à l'époque, je ne comprenais pas que ça correspondait. Donc voilà, ça a été la première couche de mémoire, si vous voulez. Ensuite, le 11 novembre, nos parents nous envoyaient systématiquement au monument aux morts. Donc du coup, on était expédiés, contraints et forcés à la cérémonie du 11 novembre. Mmh. Et du coup, ça a été un petit peu la deuxième couche, puisque là, c'était le moment d'entendre des noms qui, pour beaucoup d'entre eux, m'étaient complètement inconnus,
oui,
mais qui m'ont questionné, quoi.
À cette époque-là, les enfants de l'école lisaient les noms le jour de la cérémonie du 11 novembre.
Et oui, c'est ça. Alors nous, les petits, on écoutait sagement, mais les grands lisaient la litanie des morts. Et du coup, on prenait conscience qu'il s'était passé quelque chose de grave, mais sans vraiment pouvoir bien l'analyser. Donc l'enfance a été un moment décisif dans mon attrait pour l'histoire, en fait.
Voilà, donc là, ça c'est la naissance, en quelque sorte, d'une envie, peut-être même d'une vocation, quelque part, puisque ça vous occupe beaucoup, si j'ai bien compris. Mais justement, après fait, le temps passant, vous avez entrepris quelque chose de concret. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer carrément dans l'écriture ?
Alors, la deuxième raison, c'est une passion donc pour l'histoire qui a mûri petit à petit et qui est arrivée à l'adolescence. Et ensuite, lorsque j'ai passé mon bac, j'ai poursuivi par des études de géographie et puis d'histoire. Et du coup, faisant des études d'histoire, je me suis naturellement intéressé à tous les conflits, en particulier à la Première Guerre mondiale.
Voilà, donc vous avez tiré de cette passion des ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ces trois premiers ouvrages ?
Bien sûr. Alors, le premier ouvrage traite de l'année 1914 parce que, à l'approche du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, j'ai eu envie de travailler sur des monuments aux morts. Et évidemment, je suis naturellement retourné sur le monument aux morts de mon enfance. Donc, j'ai décidé de chercher à comprendre ce qui était arrivé à tous les noms figurant sur le monument aux morts de Saint-Martin-Valmeroux. En gros, une soixantaine de noms. Donc, j'ai fait une étude historique en trouvant des sources qui m'ont permis de dire où est-ce que ces hommes étaient morts, dans quelles circonstances. Et une fois ce travail terminé pour le monument de Saint-Martin-Valmeroux, j'ai trouvé que c'était très intéressant de faire la même chose pour d'autres communes. Donc, je suis parti sur les monuments de mon canton, le canton de Salers à l'époque, parce que quand, adolescent, je faisais des matchs de foot, par exemple à Saint-Monnet-de-Salers, à Salers, à Anglars, etc. J'étais confronté en fait au même monument, au même lieu, à cette même mémoire. Et donc j'étais sidéré par l'ampleur du nombre de victimes qui figuraient sur le monument. Donc du coup, j'ai fait une enquête plus large à l'échelle du canton de Salers, 12 communes. Et puis à la fin, je me suis dit, mais il faut aller plus loin. Il faut essayer de faire un travail beaucoup plus poussé, de façon à produire quelque chose de statistiquement fiable. Donc je me suis entêté à faire un travail sur les 60 communes de l'arrondissement de Mauriac.
D'accord.
Donc j'ai travaillé sur les 60 monuments morts de Mauriac.
Et qu'est-ce que vous avez retenu et retranscrit dans vos ouvrages ?
Alors, une fois que j'ai eu recensé tous les morts figurant sur les 60 monuments, c'est-à-dire en gros 3000 noms, je les ai classés par ordre chronologique, du premier mort chronologiquement, le 9 août 1914, au dernier donc, qui est mort le 9 novembre 1918. Une fois que j'ai eu ce classement chronologique, je me suis dit qu'il serait intéressant de publier, à l'approche du centenaire, quelque chose sur les soldats morts en 1914. Donc j'ai fait un premier ouvrage chronologique qui s'intitule « Une chronique quotidienne des soldats du Nord-Cantal morts à la guerre de 14-18 ». Donc ça a été le premier. Du coup, lorsque le centenaire a eu lieu, j'ai surfé un petit peu sur la vague du centenaire pour proposer ce livre à des lecteurs potentiels. Et ça a marché, du coup, j'ai continué.
Voilà, donc vous apportez des informations qui, d'une certaine façon, remettent en lumière ces noms qui sont certes sur des monuments, mais ces monuments, on passe devant et on ne s'y arrête pas toujours. Vous avez voulu quand même les remettre en lumière.
Oui, parce que c'est une façon aussi, au-delà de l'histoire, d'honorer leur mémoire et de travailler sur la mémoire. C'est plus le travail de mémoire que le devoir de mémoire qui m'intéresse. L'idée, c'était de faire ressurgir ces vies qui ont été brisées et d'une certaine façon de leur rendre un petit peu hommage aussi. Donc après l'année 14, j'ai entrepris de faire le même travail pour l'année 1915. J'ai publié donc un livre qui traite de tous les morts qui figurent sur les monuments pour l'année 1915. Puis ensuite, j'ai fait la même chose pour 1916. Et là, donc, je suis au milieu du guet puisque je vais normalement publier dans les années qui viennent deux autres ouvrages sur les années 17 et 1918.
Oui, les deux dernières années. Alors, ces noms, évidemment, figurent sur des monuments. Alors, il faut bien dire que ces monuments aux morts qui sont dans nos villes et dans nos villages, ils ont été érigés après la guerre de 14-18, mais principalement pour honorer les morts de la guerre de 14-18. Depuis, d'autres noms, malheureusement, se sont rajoutés. En fait, c'était surtout pour les morts de la Grande Guerre. Et je me pose la question suivante. Que reste-t-il dans la mémoire collective? Et encore plus, que reste-t-il dans celle des jeunes d'aujourd'hui de cette guerre qui, en 4 ans, il ne faut pas l'oublier, aura décimé une génération de jeunes gens, côté français comme côté allemand d'ailleurs, et même au-delà, puisqu'il y a un grand nombre de nations qui ont participé à la Première Guerre mondiale, qui ont combattu et qui ont eu des victimes. Voilà, donc aussi, j'aimerais que vous nous disiez quelques mots de ce conflit. Comment et pourquoi est-il né? Comment a-t-il pris fin? Quelle était sa nature, en définitive, puisque chaque guerre est différente? Quelle était la vie aussi de ces soldats, dont nous allons reparler, bien sûr, de ces poilus dans cette guerre de tranchées? Alors dites-nous, Gilles Vidal.
Alors racontez-nous. D'abord, moi je ne suis pas un historien professionnel, je ne suis pas un chercheur en histoire, comme par exemple des gens comme Jean-Yves Le Naour, qu'on peut considérer un petit peu comme mon père spirituel. Mais par contre, ayant beaucoup travaillé sur le sujet, et étant enseignant en histoire géo au lycée Marmontel à Mauriac. J'ai donc des élèves de seconde, de première et de terminale. Et les programmes de lycée sont très clairs. Il s'agit d'étudier la Première Guerre mondiale à travers ses phases, mais aussi à travers les responsabilités. Du coup, sur les origines de la Première Guerre mondiale, on étudie en terminale, en particulier dans ce qu'on appelle la spécialité histoire géo, sciences politiques et géopolitiques, un thème qui nous permet de faire comprendre aux élèves quelles sont les origines de la guerre et surtout quelles sont les responsabilités. Donc, pour faire très simple, les responsabilités dans la Première Guerre mondiale sont aujourd'hui partagées. Tous les historiens sont unanimes, il y a consensus pour dire que la guerre part du choc des nationalismes en Europe et en même temps d'un choc de ces impérialismes qui vont naître des nationalismes. Donc en fait, la question des responsabilités aujourd'hui, elle est tranchée depuis longtemps.
Ceci dit, il y a quand même un des belligérants qui a déclaré la guerre le premier.
Bien sûr, alors si on reprend la chronologie des événements, et c'est sûr qu'il y a un déclencheur de la guerre, mais les autres pays étaient prêts, était mûr pour l'affaire aussi. Donc aujourd'hui, le consensus existe autour des responsabilités partagées de la Première Guerre mondiale.
Mais au départ, ça a quand même été une affaire entre la France et l'Allemagne, et l'Angleterre aussi, je crois.
Oui, mais bon, rapidement. Si on creuse un peu plus, il faudrait aborder aussi la triple entente, la triple alliance et le déclenchement des alliances, l'engrenage des alliances.
L'engrenage des alliances.
Tout ça nous amènerait un petit peu loin, mais effectivement, il y a à l'origine la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, mais les responsabilités sont clairement partagées aujourd'hui. Sur les phases du conflit, on étudie au lycée et au collège l'idée que la Première Guerre mondiale est une guerre qu'on peut scinder en trois phases. Une première phase dite guerre de mouvement qui commence au mois d'août 1914 et qui va s'arrêter fin novembre 1914, puis ensuite on rentre dans une guerre de position puisque les deux armées vont creuser des tranchées et vont s'enterrer donc dans un réseau de tranchées qui ne va quasiment pas bouger jusqu'au printemps 1918. Donc de l'année 15 à l'année 18, c'est la guerre dite de tranchées, la guerre de position. Et au printemps 18, à partir du mois de mars, l'armée allemande va lancer une très grande offensive pour essayer de faire la décision. Et cette grande offensive va percer le front et relancer la guerre de mouvement jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire au mois de novembre 18. Donc voilà les trois grandes phases de la guerre.
Oui, cette grande offensive a donné lieu à la bataille de la Marne.
Alors la bataille de la Marne, c'est la première grande offensive allemande du mois de septembre 1914.
Ouais. Ils se sont approchés de Paris et les troupes françaises ont réussi à les repousser.
C'est ça. On disait au début septembre que les Allemands étaient à Meaux, donc à portée de canon de Paris.
Voilà, et j'imagine que les Français à l'époque devaient avoir très peur, puisque dans l'affrontement précédent entre la France et l'Allemagne, la fameuse guerre de 1870, là les Allemands étaient arrivés jusqu'à Paris et avaient envahi Paris. Là, je crois que tous les moyens ont été mis en œuvre pour éviter cette nouvelle humiliation.
Oui, c'est vrai que le traumatisme de 1870 a dû beaucoup jouer dans la capacité à galvaniser les armées françaises au mois de septembre 1914. D'où la contre-offensive de la Marne qui a permis aux armées françaises de repousser les Allemands sur l'Aisne, en fait.
Voilà. Donc, quelques affrontements, le front est encore mouvant, puis à un moment donné, il se stabilise sur une grande ligne qui, donc j'ai bien vu vos cartes, va en gros de la Suisse jusqu'à la Belgique.
Oui, c'est ça.
Mais qui parcourt tout l'est et le nord de la France. Et là, comme vous l'avez dit, on s'enterre dans des tranchées et on se canarde de tranchée à tranchée, puis après on s'envoie des obus. C'est une vie de soldat très particulière. On a beaucoup de témoignages sur la souffrance des soldats dans les tranchées. Et à cet égard, d'ailleurs, j'aimerais lire une lettre qui figure dans un ouvrage qu'a réalisé Jean-Pierre Guénaud, qui s'appelle « Parole de poilu » et qui a collecté avec l'aide de Radio France et puis la même chose s'est passée d'ailleurs en Allemagne, des lettres que les poilus ont envoyées à leur famille. Je vous lis la lettre d'un certain Jules Grosjean qui a été écrite le 9 octobre 1915. Il écrit ceci. « Je crois n'avoir jamais été aussi sale. Ce n'est pas ici une boue liquide comme dans l'Argonne. C'est une boue de glaise, épaisse et collante, dont il est presque impossible de se débarrasser. Les hommes se brossent avec des étrilles. Par ces temps de pluie, les terres des tranchées, bouleversées par les obus, s'écroulent un peu partout et mettent au jour des cadavres, dont rien, hélas, si ce n'est l'odeur, n'indiquait la présence. Partout, des ossements et des crânes. Pardonnez-moi, dit-il à ses parents, pardonnez-moi de vous donner ces détails macabres, ils sont encore loin de la réalité. » Voilà, c'est un exemple du vécu d'un poilu. Alors justement, dites-nous un peu plus sur la vie de ces poilus dans les tranchées.
Alors vous venez de lire un témoignage qui est très touchant. Il en existe des milliers.
Oui.
La vie dans les tranchées, la vie des soldats, du coup, on la connaît aujourd'hui beaucoup mieux. Pendant longtemps, moi je me rappelle quand j'étais au lycée en tant qu'élève, on avait une lecture de la Première Guerre mondiale qui était très factuelle, basée sur les faits d'armes. Mais en fait, on abordait très très peu la vie des soldats. Depuis une trentaine d'années, il y a eu des dizaines de travaux de chercheurs qui ont fait avancer la connaissance de ce qu'ont enduré les hommes qui étaient sur le front. Et du coup, on a une lecture aujourd'hui beaucoup plus sociale, beaucoup plus humaine de ce qu'a été la Première Guerre mondiale. Alors pendant longtemps, c'était une histoire très factuelle. Du coup, les travaux se sont multipliés et on a appris à comprendre quelle avait été l'épreuve qu'ils avaient subie. La vie d'un soldat, à partir de 1914, fin 14, et jusqu'à la fin de la guerre, c'est une vie qui est certes faite de temps en temps d'offensives qui sont meurtrières et traumatisantes. Parce que même si on en réchappe souvent, on est blessé, voire mutilé, ou alors marqué à vie par le choc représenté par les tirs d'artillerie, ce que les Anglais appellent le shell shock, c'est-à-dire le fait de ressortir complètement perturbé par le bruit des bombardements. Donc il y a ces offensives, mais le plus clair du temps, en fait, les soldats s'ennuient parce qu'ils sont de garde sur un front sur lequel parfois il ne se passe plus rien pendant des semaines, voire des mois. Et donc, en fait, la vie devient d'une banalité assez crasse, quoi, finalement.
Voilà, donc est-ce que vous pouvez, Gilles Vidal, revenir sur les morts de la commune de Mauriac, dont vous disiez que en suivant ces victimes de la guerre, on pouvait en même temps avoir un récit de l'évolution des combats?
Tout à fait. Quand j'ai commencé à faire ce travail, j'ai cherché un titre à ces livres et j'ai finalement conclu que j'allais l'appeler « Petit soldat dans la Grande Guerre ». Petit soldat parce que c'était des petits soldats qui étaient issus d'un milieu rural, souvent très modeste, mais aussi parce que c'était des locaux. Mais néanmoins, à travers l'étude de ces monuments locaux, on arrive finalement à suivre les événements de la Grande Guerre. Donc c'est une façon de permettre, en passant du local, d'aller vers l'histoire générale. Et du coup, effectivement, sur certains monuments où il y a beaucoup de morts, quand on recense leurs morts, et quand on essaye de localiser l'endroit où ils sont morts et les offensives dans lesquelles ils sont tombés, on se rend compte que sur des monuments comme celui de Mauriac avec ses 132 morts, ou peut-être même à Bord-les-Orgues avec ses 149 morts, on peut retracer finalement à la lettre et quasiment mois par mois les différents événements de la Première Guerre mondiale, de la frontière belge dans la région de Ypres jusqu'à la frontière suisse en passant par Verdun et tous les grands lieux de la Grande Guerre.
Vous disiez que cette guerre se déroulait selon un rythme qui était fait de moments d'accalmie et puis de grands affrontements. Il y a eu quelques batailles célèbres qui ont fait beaucoup de victimes. Est-ce que vous pouvez nous parler de certaines d'entre elles?
Oui, alors dans mes livres, on trouve évidemment toutes les grandes offensives qui ont jalonné la guerre, notamment les premières hécatombes de l'année 1914. Ensuite, pour 1915, il y a surtout deux grandes batailles qui ont abouti à beaucoup de pertes, c'est les batailles de l'Artois et puis ensuite la bataille de Champagne. Pour l'année 1916, évidemment, tout le monde connaît Verdun, puisque Verdun, c'est une offensive allemande qui commence au mois de mars et qui va durer quasiment toute l'année 1916 et qui va entraîner des hécatombes de morts dont on trouve la trace sur quasiment tous les monuments cantaliens.
Et les Mauriacois sont à Verdun et beaucoup sont morts à Verdun, j'imagine.
Oui, alors les Mauriacois, on en trouve sur les 4 années de la guerre. Hein. Sur le monument aux morts de Mauriac, beaucoup sont morts à Vaux, à Douaumont, donc des hauts lieux de Verdun. Quand on dit Verdun, c'est un terme générique pour dire le front qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Verdun. Beaucoup sont morts aussi dans la Somme, puisque la deuxième grande offensive de l'année 16, c'est la bataille de la Somme qui a été aussi une véritable hécatombe. Pour l'année 17, on retrouve aussi des Mauriacois morts sur le chemin des Dames. Mais je pense qu'on trouverait la trace de cette offensive aussi sur le monument de Bord, ou bien même des monuments de communes un peu plus modestes comme Trisac ou bien Saint-Martin-Valmeroux. Pour l'année 18, on trouve aussi beaucoup de morts parce que c'est une année très meurtrière à cause de l'offensive allemande dont j'ai parlé tout à l'heure et de la contre-offensive française, bien aidée par les Américains qui sont arrivés au printemps 18 et qui ont mis tout leur poids dans la bataille.
Voilà, nous étions avec Gilles Vidal, professeur d'histoire au lycée de Mauriac. Nous avons ensemble dressé un panorama un peu de la Grande Guerre et il nous a aussi expliqué, bien entendu, quelle était sa démarche et quel était le sens qu'il voulait donner au travail qu'il a réalisé en recensant les morts pour la France qui sont dans nos villages. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aborder une deuxième partie de cette émission. Elle sera consacrée au patrimoine matériel et mémoriel. Que reste-t-il de cette Grande Guerre ?
RBAFM, Auvergne, Limousin.